Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Des idées, une rencontre. Si l'on devait donner un titre à notre émission de ce jour, ce serait celui-là. On y ajouterait aussi le terme de disparition. Mais soyons plus clairs. Dans le désordre, mais par ordre d'entrée au micro, nous évoquerons une rencontre entre une sorte de beauf à belle gueule et une jeune femme tellement plus maligne que lui. Ces deux-là n'auraient jamais dû se croiser, or ils vont faire un peu plus que ça. Bon, c'est très résumé et très simplifié, le résumé de ce qui, si c'était elle, la pièce que nous sommes allés voir au Montmartre Galabru. Elle est signée Franck Buiro et c'est Pascal Ben-David qui la met en scène. Ils sont avec nous pour en parler et vous l'entendrez, le hors-champ est tout aussi intéressant que ce qui se passe sur scène. Sa pièce à elle, elle ne sera pas visible avant le 6 février au local des Autrices dans le 11e à Paris, mais le thème a attiré notre attention. Sylvie Gravagna, la metteuse en scène et autrice du spectacle En dehors, a en effet choisi de nous parler de la jeunesse de Rirette Maître-Jean. Rirette Maître-Jean, alias Anna Henriette Etorge, épouse Maître-Jean, s'est en effet illustrée dans le sillage de la bande anarchiste que l'on a connue dans les années 1911 et 12 sous le nom de Bande à Bono. Sylvie Gravagna nous en dira plus en deuxième partie de cette émission. Pascal Dutertre, notre architecte maison, ne sera pas là aujourd'hui pour évoquer les lieux de spectacle et c'est donc avec notre rubrique en partenariat avec les EAT que nous allons conclure notre émission. Marine Chartrain viendra nous présenter son texte. Il a pour nom Feu du ciel et il évoque les mystérieuses disparitions du frère de l'héroïne sur fond d'extraterrestres. Vous avez le programme, éteignez vos portables. Voici venue la 7e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Téléphone en main, il entre dans un café à la recherche de sa énième rencontre. Une rencontre avec laquelle il a pris rendez-vous sur un site de rencontre, sur une appli. La surprise. Franck Buiro, c'est comme ça que débute, et si c'était elle, la pièce qui est montée en ce moment par Pascal Ben-David au Montmartre Galabru. Et vous en êtes l'auteur. Alors, on va ouvrir votre micro, comme ça on vous entendra nettement mieux. Alors, je vous écoute. Allez-y, Franck.
Tout à fait, c'est ça. Merci pour l'invitation.
Voilà, vous n'avez ne bougez pas, c'est parfait comme ça. Okay. Ce beauf, il est téléphone en main. Enfin, on l'appelle beauf. Il en a tous les aspects. Il a le jogging, l'air arrogant. Et la rencontre est catastrophique avec cette jeune fille. Racontez-nous.
Il est transparent plus que beauf. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive au rendez-vous, il n'était pas au courant, mais la fille est en fauteuil roulant. Là où d'autres disent « Oh là là, mon Dieu, je dis rien », puis on y va quand même. Il dit « Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu me l'as pas dit ?» etc. Il le prend mal, il pense que c'est une ex qui cherche à se venger éventuellement. Il y croit pas, il va même naïvement lui demander de se lever et de marcher pour être convaincu qu'elle est véritablement handicapée. Et naturellement, eh bien, elle l'est.
Alors une de ses répliques, c'est « Tu sais, quand je te vois, je pense à tout sauf au sexe. » Pascal Ben-David, vous êtes le metteur en scène de cette comédie. Alors on va dire comédie, ça a l'air d'être une comédie inclusive, ça l'est un petit peu, hein, puisque... mais ça n'est pas que ça.
Alors, au départ, pour nous, c'était une comédie romantique, une comédie qui mêlait à la fois le chant, la danse, et on s'est aperçu qu'elle avait un sens beaucoup plus profond que ce qu'on imaginait, et surtout la façon dont le public l'aperçoit, c'est vraiment justement... la différence avec l'autre, comment on réagit par rapport à la différence et à des gens qui sont en situation de handicap. Et ça a pris un peu le pas sur le reste, sur la comédie et sur le côté léger comédie romantique. Il y a beaucoup plus de profondeur qu'on ne le pensait en fait.
Finalement, on pourrait remplacer le terme handicapé par grosse, vieille, moche, borgne, aveugle.
Tout ce qui fait les différences.
Voilà, absolument. Voilà. Cette confrontation, c'est un peu la confrontation entre la belle et la bête, en version jogging et belle gueule. Hein.
Oui, une version moderne.
Hein, Franck Buiro, vous qui en êtes l'auteur.
Ça peut être ça. En histoire vraie, en plus, c'est pas un dessin animé.
Alors, parlons du casting. On va régler un petit détail. C'est que c'est une distribution qui est basée sur 6 comédiens, mais à Paris, au Théâtre Montmartre-Galabru, la distribution est fixe. Ce sont deux mêmes comédiens.
Alors, à la base, ce sont deux comédiens.
Pascal Ben-David.
Voilà, deux comédiens. Et on a été contraint de dupliquer la distribution, de faire d'autres tandems, parce que cette pièce va se jouer à la fois en tournée et à la fois à Paris. Donc, il nous fallait une distribution qui puisse assurer notamment quelques dates de tournée. Et par la même occasion, on fait jouer toutes les distributions à Paris. On va jouer 3 mois, là, au Théâtre Montmartre-Galabru, et chaque distribution va jouer 1 mois.
Alors, pour l'instant, c'est Nawel Evad
et Hugo Hamdad.
Et Hugo Hamdad, qui forment ce qu'on appelle le duo du clown blanc et de l'Auguste. Finalement, c'est une recette éprouvée que ce personnage un peu raisonnable et ce personnage foufou qui dit à peu près n'importe quoi. Ce sont les recettes du cirque et les recettes du théâtre comique, hein, non ?
On peut le voir comme ça aussi. Oui, oui, on peut le voir comme ça. Ils sont à l'opposé, c'est-à-dire que rien ne devait faire en sorte qu'ils se rencontrent, si ce n'est les applications et la ruse qui a été employée par Nawel, qui joue le rôle de la jeune femme handicapée, parce qu'elle en a marre de se prendre des râteaux. Et effectivement, maintenant, elle cache son handicap et elle l'impose au moment du rendez-vous. Mais sinon, ils se seraient jamais rencontrés. Et il a fallu ce subterfuge pour qu'elle puisse avoir lieu, cette rencontre. Après, il faut voir la pièce pour voir ce qui va se passer, mais on imagine très bien qu'ils vont apprendre à s'apprivoiser, ils vont apprendre à se découvrir, il va y avoir des confrontations, du rire, des larmes, et finalement, ils vont se retrouver.
Franck Bureau, quand on a l'idée d'écrire cette pièce, on va parler de la genèse tout à l'heure, on va laisser un petit peu de suspense à nos auditeurs. On écrit aussi dans l'idée... Un jeu de comédien, une sorte de ping-pong.
Oui, j'adore le rythme. C'est ça. Et je voulais être transgressif, sans être trop gratuit ou vulgaire ou provocateur. Et en réalité, avant le confinement, on avait proposé ce rôle à une véritable comédienne handicapée. Et je ne l'avais pas prévenue du ton de la pièce. Donc les 25 premières pages sont quand même très transgressives.
Alors on va revenir sur la genèse. Non. Vous n'avez pas commis d'impair. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tête, vous aviez cette idée de rythme en permanence.
Oui.
Parce que c'est ça le théâtre, finalement. Pascal Ben-David, bon, vous, on va dire aux auditeurs, vous vous connaissez parfaitement, vous êtes les meilleurs amis du monde. Vous-même, Franck Bureau, vous êtes comédien, vous êtes aussi metteur en scène, c'est-à-dire que vous avez une forme de fluidité dans les différentes fonctions que vous occupez au théâtre.
C'est un peu les chaises musicales, chez
voilà,
nous.
Voilà, c'est, hein, ça, oui.
On adore changer de on n'est pas figé sur une seule activité. On aime bien passer comédien, auteur, metteur en scène et on aime explorer ensemble les différentes phases du jeu de l'acteur et de la comédie, en fait.
Donc Pascal Ben-David, vous récupérez cette pièce de la part de Franck Bureau. Ça se passe comment? Racontez-nous la transmission, parce que c'est pas tout le temps fréquent, sauf lorsque Sylvie Gravagna nous le dira tout à l'heure, quand on est auteur et metteur en scène en même temps, mais c'est pas tout à fait commun qu'il y ait une telle transmission aussi rapide entre l'auteur et le metteur en scène.
Mais en fait, Franck et moi, on a la même vision de la comédie. On partage la même passion et surtout, on a la même vision de la façon de travailler. Donc un jour, il m'a dit, vas-y, je te confie le bébé, ta carte blanche et propose-moi des choses. Et il m'a ouvert en fait un très très grand terrain de jeu. Je me suis énormément amusé puisque j'ai pu y mêler tout ce que j'aime, c'est-à-dire la musique, le jeu de l'acteur et la direction d'acteur, puisque je suis moi-même comédien depuis déjà plus de 30 ans. Et j'ai découvert les lumières, la mise en scène, la scénographie. Enfin voilà, je me suis confronté à toutes ces choses qui sont vraiment passionnantes. Et je le remercie parce que c'est un cadeau qu'il m'a fait.
Franck Bureau, quand on élabore ce texte, et qu'on voit le résultat tel qu'il est visible au Théâtre Montmartre-Galabru, on a l'impression que la pièce nous a échappé, qu'elle est autre chose.
Oui, c'est une belle leçon, parce que c'est important de savoir lâcher par moments, comme dit Pascal, le bébé, puisque dans la mise en scène, il avait des idées, évidemment, il m'en parlait. Je n'étais pas toujours d'accord au tout début, puis je le laissais faire, puisque c'était notre pacte de confiance. Et à chaque fois, très sincèrement, je lui dis en privé, mais je dis, putain, t'avais raison, ça marche tellement. Enfin,
vous avez validé tous ces choix.
Tout à fait, tout, absolument tout.
Alors, parlons un tout petit peu de la progression dramatique, parce que c'est ça aussi le théâtre, c'est pas seulement du rythme, c'est une progression dramatique et quelque chose qui a un début, un milieu et une conclusion. Donc, ces deux-là vont apprendre à se connaître, finalement, la Belle et la Bête, le SDF en jogging, parce que c'est ça, on a oublié de le dire, hein, lui cherche des filles aussi pour trouver un lieu où dormir. Il ne s'agit pas seulement de coucher, il s'agit aussi de dormir.
C'est un opportuniste.
Un opportuniste.
C'est un opportuniste, il a le cœur fermé. Elle va lui ouvrir le cœur, mais pour l'instant, il est fermé. Et il ne veut que se servir des gens. Et il se sert de sa belle gueule pour conquérir des filles et trouver et de l'argent et un toit et éventuellement des sorties de crise. Voilà. C'est un petit peu le beau gosse qui profite de tout. Voilà.
Alors, à cet aspect fumeux, elle lui oppose une espèce d'inertie sympathique et intelligente. avec un sacré sens du pragmatisme.
Oui, oui, oui. Elle est.
Elle a pas le choix de toute façon.
Oui, elle en a pris plein la gueule. Hein. Elle s'est pris des portes à longueur de temps. Elle souffre. Le handicap, c'est vraiment la souffrance. On s'en est rendu compte quand on a fait monter cette scène avec une première fille qui était réellement handicapée. Du coup, elle nous a ouvert un petit peu les yeux. On connaissait pas. Et elle nous a expliqué ce que c'était que la vie d'une jeune femme handicapée et la difficulté qu'elle pouvait rencontrer à tous les niveaux.
Franck Bureau, il y a une réplique qui est marquante, hein, qui moi m'a marqué. Elle ne ferme jamais la porte de chez elle, pourquoi ?
C'était dans le texte, en écrivant, ça, c'était pas inspiré de la vie réelle avec la vraie Lélé, mais c'était en écrivant, je me disais, ben oui, mais comment elle fait pour le verrou, il est trop haut ? Et puis avec l'inspiration, je me disais, ah, ben, tiens, ça peut être inclus dans le texte.
Ben logiquement, elle est en fauteuil, donc elle peut pas monter le bras suffisamment haut pour fermer un verrou qui se trouve à 1m50 du sol.
Ça, je voulais montrer les vraies difficultés pour la vie des handicapés, pas les trucs qu'on entend régulièrement, le trajet, les métros, etc. Il y a tout le petit quotidien. Il faut que la cuisine soit adaptée pour une personne en fauteuil roulant, il faut que le verrou soit réadapté et être mis un peu plus bas. Il faut que tout soit réadapté tout le temps et on n'y pense pas lorsqu'on n'est pas handicapé.
Comment est-ce qu'on arrive à faire une pièce, et là je m'adresse successivement à tous les deux, comment est-ce qu'on arrive à faire une pièce sans pathos, hein. Il n'y a pas de pathos, hein. Il y a de l'émotion, mais il n'y a pas de pathos. On n'a pas pitié de Lélé, on a plutôt pitié de Franck, finalement.
Oui, d'ailleurs, il le dit à un moment, le plus handicapé des deux, il va lui dire à la fin de la pièce, c'est moi le plus handicapé. Mais tout simplement parce qu'il faut absolument éviter cet écueil. Si on arrive dans le pathos, on passe à côté, on passe complètement à côté du sujet. Et je pense que toutes les personnes en situation de handicap ne veulent pas qu'on les plaigne.
Aujourd'hui, dans Radio Scénique, nous parlons avec Franck Buireau et Pascal Ben-David de « Et si c'était elle ?».
Des corridors, porteur de vieux papa, assurant le transport à ceux qui n'en ont pas, se fait souvent pousser par un lointain neveu, aux paumes émoussées ou un tablier bleu. Le petit wagon rebelle, envoyeur de mes mères, et que certains appellent voiture au volant d'air, traverse au petit pas le couloir de la vue, mais n'ose en aucun cas descendre dans la rue. La maladie qui roule se fait sans en rougir, en traversant la foule, une santé en cuir, handicapés et vieux, partis de bon matin, faire une course à deux, une main dans la main. Le petit wagon rebelle, envoyeur de mes mères, et que certains appellent voiture au volant d'air, traverse au petit pas le couloir de la vue, mais n'ose en aucun cas descendre dans la rue.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Allegre FM, vous êtes à l'écoute du 93.1 et dans Radio Scénique aujourd'hui. On parle entre autres, parce que notre programme est riche, de « Et si c'était-elle » avec Franck Bureau et Pascal Ben-David, Franck Bureau étant l'auteur et Pascal Ben-David étant le metteur en scène de cette pièce romantico-rigolarde pour un beau fan jogging et une reine de la danse en fauteuil roulant. Franck Bureau, cette histoire, ça part de faits réels.
Tout à fait. Lorsque, en fin d'adolescence, vers 16-17 ans, lorsque je découvrais les boîtes de nuit, il y avait une jeune fille qui était constamment là. Elle avait une cour autour d'elle. Lélé, la vraie Lélé, était donc handicapée. Elle est toujours, elle est vivante. Et il y avait une espèce de cour autour d'elle et ça m'affectait puisqu'en fin de soirée, tout le monde profitait de son argent et ils se barraient tous. Elle se retrouvait seule. Et donc un soir, je suis allé vers elle, on a sympathisé, on a beaucoup échangé. Et elle me mettait des leçons de vie. On philosophait à 16 ans et c'était absolument génial. Moi, je me plaignais du temps devant elle, du périph' qui était bouché. Je me disais, mais comment tu oses faire ça devant elle? Et puis longtemps, hein, plus tard, elle me dit, tiens Franck, ça me ferait plaisir de t'inviter chez moi, j'ai un nouveau piano, je te ferai écouter des morceaux. Elle se met à jouer et là je me dis, oh, je pourrais tomber amoureux, c'est fou, pourtant elle ne me plaît pas physiquement. Et moi je croyais que c'était, fallait être séduit par le physique avant de tomber amoureux, alors que non, loin de là. Et là j'ai eu l'idée de la pièce en lui disant, comme j'étais dans mon époque avec les applications, les sites de rencontres, je dis comment un mec un peu beauf, comme vous dites, un peu transparent, se pointe au rendez-vous, il est persuadé qu'il va rencontrer la femme de sa vie, et elle fait « En fauteuil roulant, c'est pas possible !» Et voici comment l'idée m'est venue, et ça m'a amusé.
Donc, petit décalage, mais Franck reste Franck, hein, vous appelez Franck, et le personnage s'appelle Franck, et la vraie Lélé que vous avez rencontrée dans la vie, elle s'appelle Lélé, une abréviation de
Léopoldine.
Léopoldine, quel prénom. Résultat, on s'empare de ça, évidemment. Pascal Ben-David, Franck Bureau a dû vous raconter tout ça, cette histoire.
Alors, rencontre. Non seulement il me l'a raconté, mais en plus, il m'a fait rencontrer la vraie Léopoldine, la Lélé. Puisque l'idée, c'était de monter cette pièce avec elle. C'est devenu impossible, parce qu'elle voyage à travers le monde, elle avait très peu de temps à nous consacrer pour les répétitions. On s'est vu 2-3 fois et on s'est aperçu qu'on ne pourrait jamais monter cette pièce avec elle.
C'était techniquement impossible, et de toute façon, en termes d'emploi du temps, impossible aussi.
Impossible, voilà, de tous les côtés. Mais sinon, on se serait adapté à son handicap. Mais là, c'était vraiment impossible. Elle n'avait pas le temps. Elle pensait qu'elle allait arriver pendant une semaine à Paris, qu'on allait jouer la pièce. Elle n'a pas compris qu'il y avait énormément de travail en amont.
Mais alors, l'histoire n'est pas finie.
Alors, l'histoire n'est pas finie, puisque pour le coup, on a passé une annonce et on a vu, pardon, excusez-moi, on a passé un casting et on a rencontré une autre véritable handicapée qui est arrivée sur fauteuil roulant, une très jolie femme, et qui en plus savait danser. Et on s'est dit, ben, remontons si ça lui convient, cette pièce avec elle.
On peut dire son prénom ?
Oui, elle s'appelle
Magali Le Naour Sabi.
Voilà, qui a créé on va dire ce personnage avec nous, qui a joué la pièce, on a joué cette pièce avec elle. C'était très émouvant. Malheureusement, c'était juste avant le Covid. Et quand le Covid est arrivé, ça a stoppé net l'aventure avec elle. Elle n'a pas pu continuer. Il fallait qu'elle vive, qu'elle travaille. Elle n'a pas pu continuer derrière.
Alors, à défaut de comédienne handicapée, vous êtes contraint de...
d'aller chercher une comédienne qui n'est pas handicapée, mais qui jouera une jeune femme en situation de handicap.
Donc... L'idée était tout sauf s'exonérer des reproches qui pourraient vous être faits de la non-représentativité d'une comédienne valide par rapport à la représentation d'une comédienne valide. Il y avait ça aussi ?
Oui, on nous le fait. On vous le fait encore. De temps en temps, on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris une vraie comédienne ? Et on explique qu'on a essayé à 2 reprises. Et à 2 reprises, ça a échoué. Donc, on a été une 3e fois vers une autre comédienne qui était la chorégraphe, qui était une ancienne handicapée qui avait réussi par la résilience à retrouver la marche. Et à retrouver, elle était prof de danse après avoir été 1 an handicapée en fauteuil roulant. Elle s'appelle Lola Ingrid Leroc. Et on a joué 3 mois avec elle à Paris. Et puis, bon, c'est une mère de famille. Voilà, elle était aussi très prise. Et il a fallu remonter encore une fois une autre distribution. Et on a enchaîné avec une 4e distribution. Et il y a un côté un peu maudit hein, sur cette pièce, faut que je vous le dise, parce que cette 4e distribution a échoué aussi, puisque finalement, notre comédienne qui était absolument merveilleuse, qui s'appelle
Marie Parizeau,
a été engagée dans un film pour un premier rôle au cinéma. Donc elle a été obligée de nous lâcher juste avant Avignon.
Et là, maintenant, vous avez la superbe Nawel
Ewad. Et maintenant, on a la superbe Nawel Ewad qui a fait l'exploit de reprendre le rôle 10 jours avant le Festival d'Avignon. En 10 jours, elle a tout repris et elle a été exceptionnelle.
On ne va pas exonérer Hugo Hamdad d'un certain talent du comique. Il en fait trop sans en faire trop. Comment est-ce qu'on arrive à ce dosage-là ? Il ne l'écrase à aucun moment, alors que le rôle pourrait dicter ça.
Hugo Hamdad, pour moi, fait partie de ces comédiens qui ont, je le dis, je l'assume, hein, qui ont du génie. Voilà, pour moi, c'est un génie. Il faut, comme toutes les Formule 1, il faut savoir le contrôler, parce que sinon il peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. Mais si on arrive à lui garder le cap, il a une inventivité et un sens de l'improvisation qui est exceptionnel. Et pour moi, c'est un grand comédien, comme Nawel d'ailleurs. Ce sont deux grands comédiens et le couple ensemble fonctionne à merveille. Après, j'en espère autant des autres qui vont arriver derrière.
Quels sont les retours? Le soir où j'étais là, il y a un retour du public entre rire beaucoup et larmes de temps en temps.
C'est ce qui ressort. Voilà, on a 102 ou 103 critiques sur Billets Réduits. C'est à peu près toutes les mêmes critiques. On est au maximum des bravos. Je crois qu'on est à 97%. Et les gens nous disent, on rit autant qu'on pleure dans cette pièce. Et ça nous fait en plus réfléchir. Donc pour nous, c'est un retour très gratifiant et on est très fiers de porter ce spectacle.
Alors, on peut mettre le label Aligre FM sur ce spectacle. On a, nous, personnellement, aimé, on y a ri, on y a un peu pleuré. Et maintenant, on sait que ce spectacle est exonéré du reproche d'appropriation du handicap, si tant est que cette phrase puisse avoir une signification. Merci en tout cas, Franck Bureau et Pascal Ben-David. Rappelons que votre pièce, Et si c'était elle, est jouée. Alors pour l'instant, elle est jouée une fois par semaine, tous les vendredis à 21h30,
oui,
au théâtre Montmartre-Galabru. Merci à vous.
À la Société Générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande à Bono mit les voiles. Portant la sacoche du garçon payeur, dans la deux dion mouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs, avec Raymond la science, les bandits en auto. C'était
la bande à Bono.
Les banques criaient misérables quand s'éloignait le bruit du puissant moteur. Rattraper les coupables qui fuyaient à toute allure à 35 à l'heure sur les routes de France. Hirondelles et gendarmes étaient à leur trou, c'était nuit et jour en alarme, en casquette à visière, les bandits en auto. C'était
la bande à Bono.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique que nous avons décliné aujourd'hui sous le titre triple de Une rencontre, une disparition et des idées. Sylvie Gravagna, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez en dehors du 6 au 23 février dans un nouveau lieu, au local des autrices. Et en parlant d'idées, c'est une figure de la bande à Bono que vous illustrez sur scène. Qui était-elle, cette Rirette Maître Jean?
Alors, Rirette Maître Jean, c'est une jeune femme intelligente qui arrive à Paris à 16 ans parce qu'elle fuit un mariage forcé, on y reviendra. Et puis, elle travaille, elle est exploitée 12 heures par jour, comme l'étaient les jeunes prolétaires de l'époque.
Elle était née en 1887 à Tulle.
Tout à fait.
Enfin, dans la campagne de Tulle.
Elle vient de Corrèze, elle fuit en fait, vraiment sa mère qui veut la marier. Elle se débrouille comme des tas de petites jeunes filles, des tas de petites bécassines, j'ai envie de dire.
Oui, elle est représentative de l'immigration intérieure qui marquait le début du XXe siècle.
Tout à fait, dans un Paris surpeuplé, je le dis, et pauvre. Il y avait 500 000 Parisiens de plus qu'aujourd'hui quand même dans Paris. C'était, il faut imaginer vraiment la misère, l'exploitation, l'humiliation constante. Et elle aurait bien aimé continuer l'école et du coup elle va à l'université populaire et là elle rencontre des anarchistes, parce que la plupart des anarchistes étaient justement des gens qui avaient envie de vivre autrement qu'en étant exploités, abrutis. Et puis elle va au final gérer un journal anarchiste.
S'appelle L'Anarchie.
Qui s'appelle L'Anarchie avec un petit A, très important. Et elle va s'entourer, elle rentre dans une joyeuse bande de copains, j'ai envie de dire de camarades, comme ils s'appelaient. Sauf que certains vont, à un moment donné, prendre un virage, on peut dire, au volant d'une voiture, avec un fameux Bono qui débarque un peu dans ses zoos. Bono, c'est vraiment une pièce rapportée. Et puis, ça va très, très mal finir. Une cavale sanglante, 6 mois, qui va faire la une des journaux.
Bono, sa seule caractéristique, c'est d'avoir le permis de conduire.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il est bien utile à cette bande d'agistes, c'est-à-dire à ces gens qui sont dans l'action, alors que Rirette Petit-Jean, elle est dans la réflexion.
Rirette Maître Jean, oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie de réfléchir et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Hein. Il y a ce qu'on appelle des intellectuels hein, déjà à l'époque. Zola est passé par là. Donc,
hérité de Marx aussi, la pensée marxiste imprègne l'anarchie. Et il s'agit de penser en termes de récupération. On ne parle pas de vol, on parle de récupération.
Oui, c'est ça. En fait, les individualistes, parce que sont les anarchistes, donc ils se disent les anarchistes individualistes, qui sont les plus éloignés de la pensée marxiste. Et effectivement, pour eux, voler, en tout cas en théorie, c'est récupérer. On l'entend encore hein, dans certaines manifestations. Tout ce qui est à eux, ils nous l'ont pris, quoi. Donc c'est l'idée qu'il y a des riches bourgeois qui se font de l'argent. Enfin, c'est l'idée, c'est la réalité. Qui se font de l'argent sur la santé. À l'époque, il y a, je crois, 15% de tuberculeux. Enfin, les gens sont payés vraiment au lance-pierre.
C'est une misère crasse dont Paris est saisi, Paris oui. Et une bonne partie de la France. Vous, votre histoire, en prenant le biais d'une femme, vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, vous voulez offrir une version alternative à la version policière. Parce oui. que, disons-le, la traque de la bande à Bono, la traque de Bono, a fait la une de tous les journaux pendant des mois entiers.
Des mois, il n'y a que le Titanic, le naufrage du Titanic, qui a réussi à leur enlever la couverture pendant 3 jours. Sinon, on ne parlait que de ça. Elle était donc en prison, elle a eu un procès. Et après la guerre de 14-18, on était en 1913. Après, elle a voulu être discrète. Et justement, elle a repris la parole dans les années 30 parce qu'il courait une version vue par la police de toute cette histoire. Et elle s'est dit, mais c'est pas nous, ça. Nous, on avait des idéaux, on était jeunes, on était intelligents, on voulait autre chose. Et c'est pas parce que certains ont dérapé dans la criminalité qu'on était tous des criminels.
Alors, justement, c'est difficile de trouver une espèce... La bande à Mono, c'est quelque chose qui évoque encore, vraisemblablement aux plus anciens, une sorte d'Al-Ali populaire. Il y avait 10 000 personnes autour de l'assaut qui a été donné, je crois,
Choisy-le-Roi, puis
Nogent-sur-Marne. Ouais. La police, l'armée, les dragons. Les dragons, c'était une partie...
Les zouaves.
Les zouaves, voilà, toute l'armée et tout ce que l'État compte de forces publiques avait été déployé pour... abattre successivement Bono et Garnier, l'un de ses complices. 10 000 personnes. Imaginons-nous aujourd'hui une prise d'otage avec 10 000 personnes qui sont là pour y assister.
Oui, on en a encore les images. Hein. Il suffit d'aller sur le site des archives Pathé-Gaumont et vous trouvez les images en direct de cette tuerie. C'est-à-dire que c'est devenu les ennemis publics numéro un. Et puis tout ce qui était effectivement, les idées qu'il y avait derrière ont disparu complètement dans le côté folie policière.
Et idéalisation. Il y a les deux versions. Il y a soit la folie policière et sanglante, soit l'idéalisation et l'héroïsme. Donc,
oui.
Là-dedans, vous essayez de trouver un juste milieu avec la parole, finalement.
C'est-à-dire que suivre Rirette Maître Jean, qui elle-même n'a jamais pensé que Bono était un type bien, on n'en saura jamais rien. Finalement, il y a un mystère autour de ce Bono. En tout cas, elle était dans le rêve d'une société plus juste, faite d'amour, comme elle dit, et aussi de liberté. Et elle n'a pas été... Elle a trouvé ça, on va dire, à la fois minable, tragique, dramatique, de voir ses copains, bon, qui étaient des petits voleurs de boîtes de sardines.
À l'origine,
parce qu'effectivement, ils refusaient d'être exploités, voire même, ils n'étaient plus embauchés. C'est-à-dire que quand on a fait 3 grèves, les patrons ne veulent plus vous prendre dans la boîte, tout simplement. Enfin, à l'époque, il faudra se rappeler, les syndicats sont interdits. Il y a un de ses copains, à 15 ans, il est emprisonné parce qu'il distribue des tracts de la CGT qui n'est pas autorisée. Enfin, faut se rappeler de ça, parce qu'on parle toujours de la violence du fleuve, comme disait Brecht, on oublie de parler de la violence des rives qui l'enserrent. J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle dit beaucoup. Et je pense qu'elle dit beaucoup aujourd'hui aussi.
Alors, cette rirette Maître Jean, on la voit à deux époques de sa vie. D'abord, en jeune fille.
Oui, parce qu'à l'époque, elle est très jeune, c'est-à-dire qu'au moment du procès, et puis ensuite, elle va aussi raconter ce qu'elle a vécu avant, hein, parce que c'est une jeune femme amoureuse de la vie, puis amoureuse tout court. C'est-à-dire que,
Son amoureux ? Parce qu'on a parlé de son mari qu'elle a fui. Rappelons-le, à l'époque de la bande à Bono, elle a une vingtaine d'années, c'est ça ?
Elle a 26 ans au moment du procès, 25 ans, hein, et elle a déjà 2 enfants. Elle s'est mariée d'abord à 19 ans, puis elle a quitté son mari assez vite parce qu'elle s'ennuyait. Elle a eu une aventure qui a duré quelques mois avec un intellectuel qui l'a également ennuyée au bout d'un moment. Et c'est ça, elle a une grande liberté, quoi. L'idée, c'est qu'elle veut vivre toute sa vie. Et donc, elle va... Là, elle vit un grand amour au moment du procès avec un militant qui a 19 ans. Enfin, qui a 19 ans au moment où elle le rencontre. Enfin, il faut imaginer la jeunesse de ces types-là. Bon, en même temps, qu'ils pouvaient être à l'usine depuis qu'ils avaient 12 ans. Mais enfin, c'est quand même des jeunes gens. Et Kibal Chiche, qui en fait est Serge Victor, et qui, lui, est fils de révolutionnaires russes. Voilà. Lui, ses deux parents sont morts, en fait, dans le militantisme. Enfin,
il est dans la mouvance anarchiste individualiste aussi, comme Rirette Maître Jean.
Oui, oui, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, bien sûr. Ensuite, lui, il ira vers plus une pensée plus collectiviste pour finalement se retrouver dans les prisons de Staline, dont elle le fera sortir. Mais bon, ça, je ne le raconte pas vraiment, je l'évoque parce que je m'en tiens à ce moment avant 14 qu'on connaît mal parce que justement... Enfin, qu'on connaît mal, oui, dont on a une vision forcément déformée, puisque nous, on voit ça comme avant 14. Sauf que quand on vit avant 14, bah, on n'a pas conscience qu'on va vivre 14-18, vous voyez.
Alors, elle, son positionnement, c'est l'intellectuelle de la bande, c'est celle qui, à l'action, préfère la réflexion,
ouais.
Et c'est aussi une femme. Il y en avait très peu. Dans la liste de tous les membres de la bande à Benoît, je crois qu'elle est... Il y en a deux, hein.
Bon, il y en a même plus. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'avoue, Eric, que ce terme de bande à Bono m'irrite un peu parce que, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de bande à Bono. Il y a eu, à un moment donné, des types qui ont fait quelques mauvais coups. Alors, les journaux les ont appelés la bande à Bono. Mais à la base, autour du journal L'Anarchie, il y a une communauté, et encore, Rirette, elle déteste vivre en communauté. C'est des gens qui partagent des idées, qui écrivent dans un journal. Ce n'est pas la plus intellectuelle de la bande. Hein. Il y a Anna Mahé, par exemple, qui sera vraiment... une intellectuelle qui écrit beaucoup dans l'anarchie, et son fondateur Libertad, hein, qui est un homme handicapé. Et c'est justement son handicap, parce que ça lui évite l'usine, il devient un gras de papier, et ça lui laisse du temps pour réfléchir. Et il se dit, mais il y a quelque chose d'injuste là, dans le monde dans lequel on vit, qui n'est pas normal, et qui va justement s'imprégner beaucoup de la pensée anarchiste du 19e, et être vraiment le fondateur de l'anarchie individualiste, enfin, le grand militant que Rirette va admirer, qui avait un charisme extraordinaire, qui est mort en manifestation, parce qu'il faut se rappeler, à l'époque...
On tirait à balles réelles sur les manifestants.
Oui, l'armée était...
En dehors de ce personnage dont on voit dans la pétillance de vos yeux que vous l'aimez, hein, profondément, ouais. Vous êtes allé puiser dans quel type de source? Parce que c'est très documenté.
Oui, tout simplement. Alors, il y a un livre formidable qui s'appelle « Les En dehors » de Anne Steiner, qui est une sociologue qui travaille sur les violences politiques. Et le travail de Anne Steiner m'a évidemment beaucoup aidé à garder un cap juste. Mais je suis allée chercher les archives sources, c'est-à-dire les textes que Rirette a écrits. Alors, les archives ont brûlé, les archives de Paris, sur tous ces procès, enfin, sur toutes ces années-là, ont brûlé. Je me suis retrouvée avec le permis de conduire de Jules Bonneau dans les mains. Ça fait bizarre, mais il ne reste plus grand-chose malheureusement. Par contre, comme on l'a dit, les journaux en ont tellement parlé qu'il y a un énorme livre de Frédéric Lavignette qui est une bible où il y a tous les journaux. Donc il y a Colette, la grande Colette qui a écrit sur Rirette. Il y a Séverine aussi, la journaliste peut-être dont le nom vous dit quelque chose, l'ancienne collaboratrice de Jules Vallès. Enfin bref, il y a eu énormément de papiers sur cette jeune fille qui a marqué l'imaginaire à l'époque.
Sylvie Gravagnia, avec vous, on parle de En dehors, sous-titré La jeunesse de Rirette Maître Jean. Vous êtes sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Jules Bonneau, c'était pas n'importe qui. Et sa tête, on en donnait un bon prix. Pour la voir, tous les gars de la police. Ça se fait hacher comme chair à saucisse. Tout seul contre tous, il résista jusqu'au bout. Et la société était dans ses petits souliers, sans histoire. Il faisait du bon boulot et l'histoire a consacré ce héros. Le matin, les rupins sur leur paillasse, en tremblant, se demandaient avec angoisse. C'est-il moi qui vais leur servir de cible? Ah mon Dieu, non vraiment, c'est pas possible. Et Bonneau peina, détroussait les encaisseurs devant les anards. Le pays tremblait de peur, mais un jour, une femme l'a doublé. Et Bonneau, cette fois, ça l'a troublé. La Judith, elle ne valait pas grand-chose, et sa place était dans une maison close. Mais Bonou, qui avait des sentiments, il l'aimait bêtement, fidèlement. Il l'aimait bêtement, fidèlement. Il l'aimait bêtement, fidèlement.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Sylvie Gravagna est avec nous dans Radio Scénique sur Aligre FM 93.1 et on évoque avec elle le spectacle qu'elle présentera du 6 au 13 février. On y parle de Rirette Métrogeant, une figure méconnue de l'anarchie des années 1910. Voilà, comme ça on ne parle plus de la bande à Bonneau, j'ai senti que ça vous avait irrité tout à l'heure. Non. Vous nous avez proposé, Sylvie, un extrait que vous allez nous lire. On peut le remettre en contexte dans le spectacle. Ça intervient à quel moment? Qu'est-ce qu'on entend? C'est la rirette jeune, là?
Non, alors c'est la rirette vieille.
Ah, pardon, oui.
Pardon. Qui, justement, évoque la rirette jeune avec le recul que lui donne cet âge mûr, hein, dans lequel nous sommes tellement... Nous avons une sorte... comment dire? De sagesse qui commence à poindre et de compréhension de sa vie.
On va vous écouter. Précisons-le une chose, c'est que l'illustration musicale n'est pas celle du spectacle, on en reparlera.
Ma mère voulait me marier. T'es jolie, ma fille, instruite. On m'a parlé d'un jeune veuf, un boucher avec trois enfants. Il fera pas le difficile. Ah non ? Me marier dans ces conditions ? C'est de la prostitution ? De la prostitution légale, soit, mais de la prostitution ? Non. Elle me comprenait pas, alors je suis partie. Je me débrouillerai, et je me suis débrouillée. D'atelier de couture en atelier de couture, entourée de jeunes filles comme moi qui débarquaient de leur province, des bécassines. On travaillait 11 à 12 heures par jour, et à la fin de la semaine, on avait juste de quoi manger, mal, et se loger, encore plus mal. Quand les contremaîtres tournaient le dos, j'entamais des conversations. Les filles qui osaient parler, c'était pour râler ou rêver à un beau mariage. Elles m'ennuyaient, elles m'agaçaient. Alors j'ai pris du travail à domicile. Je cousais des cravates en lisant les poètes. Mais les types qui me fournissaient les cravates à coudre m'arnaquaient. Et si je râlais, j'avais qu'à aller voir ailleurs. Et ils étaient partout. C'était la jungle, hein. C'était sauvage. Mais dans cette jungle parisienne, tout de suite... J'ai vu les affiches des universités populaires. C'était nouveau. Des conférences gratuites surtout, et ça volait haut. Hein. Des intellectuels, des artistes s'adressaient au peuple. Il y avait dans l'air un grand vent de révolte contre l'esclavage. C'était comme un grand printemps avant la guerre. L'université populaire, c'était pour moi. Enfin, pour tous ces moi qui étions allés à l'école suffisamment longtemps pour avoir envie de comprendre le monde au-delà de nos villages et de leurs traditions, mais pas assez pour l'avoir compris. L'école pour les pauvres, ça s'arrêtait à 13 ans au mieux. Il y avait deux écoles à la belle époque, comme il y avait deux classes dans le train, comme il y a deux classes dans le train aujourd'hui. On montait pas tous dans le même wagon. Et nous, on s'arrêtait avant le lycée. Oh, il y avait exceptionnellement des accès, mais non. Nous étions une génération de frustrés.
Sylvie Gravagna, on a choisi une illustration musicale, je le disais tout à l'heure pour enrichir encore votre texte, mais vous n'êtes pas seule sur scène, il y a une harpiste et chanteuse qui vous accompagne. Je demande à Enrico, est-ce qu'on a l'extrait de votre harpiste et chanteuse? On peut la nommer.
Juliette Flipeau, la merveilleuse Juliette Flipeau.
Alors, elle illustre quoi? Vous m'avez dit en préparation qu'elle, c'est l'épopée.
Oui, c'est-à-dire qu'on a écrit l'épopée de la bande à Bonneau. Et cette épopée qui revient plusieurs fois dans le spectacle, donc c'est 6 mois de cavale, tous ces détails, je l'ai écrite à partir justement de tous ces articles de presse, et on entend des mots de l'époque et ça choque souvent, et elle les a mis en musique et elle les chante.
Alors, grosse énigme, on va demander là, en direct à Enrico, ça s'appelle extrait de En dehors, harpiste et chanteuse Juliette Flipeau, il l'a? Non, il ne l'a pas. Alors, vous voyez, ça donne un suspense.
Ça donne envie de venir.
Ça donne envie de venir. Pourquoi est-ce qu'on vous avez monté ce texte maintenant pour évoquer un personnage d'il y a plus de 100 ans?
Moi, je suis toujours à la recherche de grand-mère. De grand-mère qui m'aurait dit « Vas-y ma fille, sois libre, sens-toi libre, la vie c'est merveilleux ». J'ai pas eu. Et c'est un léger handicap. Et du coup, et puis bon, je m'intéressais aussi beaucoup, depuis toujours en fait, j'ai réalisé, parce que j'ai retrouvé par hasard un dossier sur les socialistes utopiques du 19e siècle que j'ai vu en Hippocagne. Et donc je pense que l'idée de réfléchir à un autre monde qu'un monde où on se sente exploité, humilié, est quelque chose d'important pour moi et pas que pour moi, je crois.
Et ce personnage est symbolique, elle est morte quand ?
Elle est morte en juin, le 14 juin, je le sais parce que c'est mon anniversaire, le 14 juin 1968. Voilà, donc elle a entendu parce qu'elle est morte avec toute sa tête, aveugle, mais avec toute sa tête. Elle écoutait beaucoup la radio. Donc je l'imagine en train d'écouter mai 68 à la radio, où elle devait sûrement se sentir le cœur réchauffé.
Vous m'avez dit que cette pièce, elle était le reflet des combats d'aujourd'hui.
Il me semble, en tout cas, moi je l'ai présentée par exemple à des jeunes qui revenaient de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui étaient très surpris d'entendre des phrases qu'ils avaient pu prononcer eux-mêmes sur une envie de justice, parce que c'est quand même des jeunes en 1910 qui étaient végétariens, qui étaient pour un retour aussi à la nature, pour une vie plus saine, pour une vie plus libre, qui étaient anti-alcooliques aussi.
Donc des précurseurs.
C'est ça, en fait c'est une avant-garde, hein. C'est une avant-garde qui se bat pour la contraception, pour le féminisme. Il y a peu de femmes, oui, mais en tout cas chez les individualistes, et c'est un peu le seul mouvement politique où il y a une véritable intention, même si c'est pas toujours facile, et on le voit encore aujourd'hui, on rame quand même, à ce qu'on puisse se considérer comme des égaux.
Alors, comme des égaux, certes, mais avec une petite limite. Elle a été traitée de femelle traîtresse par ses compagnons de lutte.
Et oui, c'est là où ça ressort.
Lors du procès.
C'est-à-dire qu'à l'issue du procès, elle a été interviewée, et bon, elle a été libérée, hein, parce qu'on considérait que les femmes étaient quand même...
Incapables.
Voilà, c'est ça. Donc...
On les considérait comme incapables.
Voilà. Et ce qui fait qu'en fait... Elle était très amère, c'est-à-dire qu'elle avait vu ses amis soit se faire massacrer par la police et l'armée, soit être guillotinée. Et elle-même, elle avait fait de la prison. Et puis surtout, elle avait trouvé qu'on ne les avait pas assez défendus. Et bon, elle s'est un peu lâchée à cette époque-là. Ça a été remanié, rivalité, comme on dirait, romancé. Et puis, bon, ce qui fait qu'elle a un peu ridiculisé... le mouvement, quelque part, beaucoup par amertume, par colère. Et puis, alors, du coup, dans le journal L'Anarchie, dont elle avait été quand même la courageuse gérante, elle s'est retrouvée, effectivement, taxée de perroquet sans cervelle et de femelle traîtresse. Bon, ce qui montre quand même que le sexisme n'était jamais bien loin.
Il y a quelques progrès à faire.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter vous nous avez parlé des gens convaincus, hein, les militants de la ZAD, les féministes, on est dans un lieu féministe, un nouveau lieu. Hein.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour faire venir des spectateurs au-delà des militants ?
Oh, moi, je pense que si on a le moindre intérêt pour l'histoire de Paris, par exemple, ou l'histoire des mouvements populaires, ou tout simplement les histoires, parce que c'est vraiment une belle histoire, intéressante, dont on peut retirer une morale. Et moi, en plus, vraiment, j'appuie sur tout ce qui était positif, notamment les conceptions de l'éducation, qui me paraissent très importantes et sur lesquelles j'ai d'ailleurs je suis en train de travailler sur un nouveau projet.
Sylvie Gravania, on vous retrouve avec En dehors, la jeunesse de Rirette Maître Jean, du 6 au 23 février, au local des autrices. Merci.
Merci.
mon absence. Une plus qui me dérange. Tout ce que j'entends, c'est le vide et le néant.
Radio Scénique par Éric Dotter. Le théâtre sur Aligre FM.
Le théâtre qui se décline suivant trois mots. Une rencontre, on en a parlé tout à l'heure. Des idées, on en a parlé tout à l'heure. Et maintenant, une disparition. Marine Chartrain, bonjour. Alors, rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Voilà, vous me regardez. Donc, vous évoquez la disparition. Notre thème de ce jour, la disparition, avec vous... On l'illustre avec votre texte « Feu du ciel » qui a été sélectionné par les EAT, les écrivains et écrivaines associés du théâtre avec qui nous avons un partenariat. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est quoi l'histoire ?
Alors en fait, « Feu du ciel », c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Dina. Et toute une nuit, elle va chercher son frère qui a disparu depuis 15 jours avec son ami Charlie. Et donc ça va raconter leur déambulation dans une ville. C'est un peu une ambiance un peu... j'allais dire post-apocalyptique, mais enfin, pas tout à fait, mais il y a comme ça un parfum bizarre dans l'air, quoi. Parce qu'à ce moment-là, il y a un espèce de grand flash lumineux qui apparaît dans le ciel, et on ne sait pas trop ce que c'est assez énigmatique. Voilà, je ne sais pas si je raconte la suite.
Bah écoutez, je trouve qu'on en est déjà bien, on est déjà bien informé de quoi il s'agit. Donc, on a compris, ce sont deux femmes qui sont à la recherche d'un homme, le frère de l'une des deux. Avec, ça parle d'extraterrestres aussi.
Oui, parce qu'en fait, à un moment, du coup, j'ai divisé le texte en plusieurs parties. C'est des hypothèses à chaque fois de pourquoi le frère aurait disparu. Et donc, sur sa route, à un moment, Charlie, son ami et Dina se séparent. Et Dina rencontre un garçon qui s'appelle Lancelot. Et qui est persuadée que la lumière bizarre dans le ciel, c'est l'apparition des extraterrestres et que ils sont là et que du coup probablement le frère de Dina s'est fait enlever, quoi.
Pour vous, l'écriture théâtrale, c'est quoi ? Parce que c'est pas la première pièce dont vous êtes l'autrice. Hein.
Non, j'ai écrit...
Vous avez un autre texte qui a été remarqué ?
Oui, qui s'appelle « Lac artificiel » aussi, qui a été aussi remarqué par les EAT et qui est publié aux éditions du Tapuscrit.
Vous êtes comédienne, hein, vous avez une formation littéraire à la base.
Oui, en fait, c'est comme ça que je suis venue. J'écris depuis vraiment très longtemps, mais au début, j'écrivais surtout des romans, et puis c'est avec ma formation de comédienne, j'ai eu envie d'essayer de mettre ces mots-là sur le plateau et d'écrire pour des corps et pour des voix et que ça soit entendu.
Pour vous essentiellement ou pour d'autres comédiens ?
Non, pour les autres. Moi, je sais pas trop où j'en suis par rapport à tout ça, mais... et puis aussi, c'est parce que j'ai l'impression que, comme déjà écrire, c'est comme ça un exercice assez solitaire, moi, j'ai envie de faire partie de... Enfin, pour moi, ça fait partie de faire partie de quelque chose, d'une aventure collective, quoi.
Donc finalement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec nos premiers invités, avec Franck Bureau et Pascal Ben-David, cette histoire de fluidité des rôles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est comédien, qui fait une pièce pour l'autre et l'autre qui est metteur en scène, ça vous parle et qui est auteur, ça vous parle ça. C'est vers ça que vous avez envie de vous diriger.
Exactement. Oui.
Parce que vous estimez que la place du comédien, finalement Sylvie Gravagna, notre deuxième invitée, l'évoque aussi, elle est autrice, metteuse en scène d'elle-même entre autres, mais aussi d'une harpiste. Vous avez l'impression que c'est ça le théâtre, c'est d'être un peu partout ?
Oui, je pense. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, oui,
c'est votre envie en tout cas.
Oui, c'est ça, c'est réfléchir ensemble. Mais bon, après, la place d'un auteur, c'est quand même une place bizarre, je trouve. Je réfléchis
bizarre,
à ça.
Hein,
je sais pas, parce que une fois qu'on a écrit un texte, c'est fini, quoi. Donc
c'est forcément fini. Normalement.
Après, on peut faire des retours. Travailler avec le plateau, si on fait, je sais pas, mais. Normalement, en théorie, normalement, c'est comme si on était...
Alors, je vais faire intervenir exceptionnellement Franck Bureau, parce que pour vous, c'était loin d'être fini une fois que vous avez fait le texte. Votre texte à vous, et si c'était elle ?
Oui, elle a répondu, il y a quand même l'échange avec le plateau, mais elle a raison, lorsqu'on a mis le mot fin, on lâche, il appartient plus aux autres qu'à nous, alors qu'au départ, c'est nous avec une feuille blanche ou un ordinateur. Et je comprends ce qu'elle ressent et je trouve que tu parles bien quand même de ce que ta sensibilité, elle se dégage beaucoup en tout cas. Bravo.
Alors le moyen de la voir se dégager, c'est de vous écouter lire un extrait de votre texte. Une fois de plus, la mise en onde, elle est signée à Aligre FM. On se permet comme ça des petites privautés pour essayer d'enrichir encore votre texte. Marine Chartrain, on vous écoute tout de suite.
Je regarde les flocons de neige tomber un par un. Les flocons de neige tombent avec lenteur. Avant de disparaître, il passait toutes ses nuits dehors. Je ne sais pas ce qu'il faisait de ses nuits. Une fois, il m'a dit qu'il partait en mission. Il partait, et j'ignore complètement en quoi consistaient ses missions. Il revenait au tout petit jour, il avait sur ses fringues des odeurs d'alcool et tout un tas d'autres choses. Il allait dans ma chambre, je ne sais pas pourquoi c'est dans ma chambre qu'il venait, mais il venait se glisser dans mon lit. Il se collait contre moi. Il me parlait vaguement. Et je ne sais pas si c'est à moi qu'il parlait ou s'il se parlait à lui-même. Je ne comprenais pas tout. Il tremblait contre moi et tout autour de lui, ça sentait la nuit froide. Il me chuchotait des tas de choses à l'oreille, des tas de choses invraisemblables. Il disait que pour être heureux, il faudrait que le monde entier brûle entièrement. Et que ça, ce n'était pas possible, car alors il y aurait trop de choses à brûler, trop d'essence à déverser. Je ne réagissais pas. Je faisais semblant de dormir encore, je crois qu'il me faisait peur. Je crois que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose et qu'un matin, il ne revienne pas. Tu ne trouves pas que la neige est bizarre? La neige a une odeur de cendre. La dernière fois que je l'ai vue, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à dormir, j'étais vraiment inquiète. La dernière fois qu'il est venu dans mon lit, je ne savais pas que ce serait la dernière fois. Il s'agitait dans mon lit. J'ai dû lui dire d'arrêter de s'agiter comme ça dans mon lit. Je n'arrivais pas à dormir à cause de lui. Il m'a grippée là. Je pensais que c'était encore un jeu et à un moment, je l'ai poussé hors du lit. C'était un accident, vraiment, je ne voulais pas qu'il s'en aille. Ça ne me dérangeait pas qu'il soit là à côté de moi. Je voulais simplement qu'il me laisse dormir. Je n'avais pas dormi depuis longtemps. J'ai dit que j'étais désolée de l'avoir poussé. J'ai dit, je suis désolée, je ne voulais pas être aussi violente. C'est pas de la neige. Mais quand il s'est relevé, il avait l'air d'une autre personne. J'ai cru à un moment qu'il allait parler, qu'il me dirait quelque chose d'important, mais non. Aucun son n'est sorti de sa bouche. Il est resté là, simplement là, comme un fantôme. Ses larmes ont lentement coulé sur ses joues.
Marine Chartrain qui lisait un extrait de son texte « Feu du ciel ». Ce texte, on va pouvoir l'entendre dans son intégralité ?
Oui, le 13 février.
Alors c'est un jeudi ?
Oui, c'est un jeudi
alors,
midi.
Alors ça fait partie des jeudis midi oui. Au Théâtre de l'Opprimé, que ce sont les présentations des textes lauréats des EAT. Hein.
Oui.
C'est-à-dire des écrivains et écrivaines associés du théâtre.
C'est ça.
Ça fait quel effet ?
Je suis vraiment contente déjà qu'ils aient sélectionné mon texte et j'ai hâte de découvrir la lecture aussi. Je pense que ça va être bien, il faut venir. Hein.
Alors, rappelons-le, vous avez été l'autrice d'un autre texte.
Oui.
Si vous aviez à définir les thématiques dont vous emparez, c'est quoi ?
Ça parle, enfin, Lac artificiel, mon texte d'avant et celui-là, c'est un peu sur les mêmes territoires, je dirais même, ça se passe dans une même ville imaginaire que j'essaye de construire au fur et à mesure de mes textes. Et ça parle, je dirais, d'adolescence et de relations amicales, et voilà, de gens qui cherchent des réponses à leurs questions, globalement.
Marine Chartrain, merci.
Merci.
Fin de cette 7e édition de Radio Scénique, votre magazine sur la création théâtrale à l'antenne d'Aligre FM 93. 93.1. Merci à nos invités qui nous ont fait le plaisir de venir dans les studios. Merci à Franck Biraud et Pascal Ben-David qui sont venus nous parler de la pièce qu'ils ont respectivement écrit et mis en scène. C'est au Montmartre Galabru et ça s'appelle « Et si c'était elle ». Vous y découvrirez un joli numéro de duettiste entre un beau fond de jogging qui drague pour avoir un toit et une jolie jeune fille au caractère bien trempé, autant que son fauteuil roulant. N'ayez pas peur, contrairement à ce qu'on dit dans la pièce, le handicap, c'est pas contagieux, mais le rire qui vous saisira, lui, en revanche, il est contagieux. Merci également à Sylvie Gravagna, vous la retrouverez à partir du 6 février dans un nouveau lieu, le local des autrices, 18 rue d'Orion, dans le 11e. Je précise le lieu parce que l'info, elle n'est pas évidente à obtenir, mais on la mettra sur notre site. Elle y joue Rirette Maître Jean, une anarchiste individualiste qui fréquenta la bande à Bono. Elle est accompagnée à la harpe par Juliette Philippot. Enfin, merci à Marine Chartrain, qui nous présentait Feu du ciel, son texte qui sera montré et mis en maquette, une sorte de mise en scène allégée au Théâtre de l'Opprimé le 13 février à midi. Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que le podcast de l'émission de ce jour sur le site aligrefm.org. Et concernant mon équipe de ce jour, merci à Pierre Demkoff qui m'a assisté et a concocté la programmation musicale de cette 7e édition. Côté technique, un grand merci à Enrico Mastrogiovanni, Kumba Cast et Damien Gissa qui étaient aujourd'hui derrière la vitre. Nous nous retrouverons le 10 février pour une nouvelle édition de Radio Scénique. Il est 10h56 sur Aligre FM 93.1 et après le théâtre de Radio Scénique, vous retrouverez à 11h toute l'équipe de Vive le Cinéma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.